Chapitre 9. L'histoire et les mémoires du génocide des Juifs et des Tziganes. Cours. Un devoir universel de mémoire. Des années 1970 à nos jours. En quoi la Shoah a-t-elle fait renaître l'exigence d'un devoir de mémoire? 1. Le siècle des génocides. A. La mémoire prédominante de la Shoah. Depuis les années 1970, la commémoration des victimes de la Shoah prend le pas sur celle des combattants et des résistants de la Seconde Guerre mondiale. À l'initiative du Conseil de l'Europe, 2002, puis de l'ONU, 2005, une journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste est célébrée le 27 janvier, date anniversaire de la libération d'Auschwitz. Ce camp est lui-même devenu le haut lieu d'un tourisme mémoriel, 2 millions de visiteurs en 2018. La mémoire de la Shoah s'est mondialisée et américanisée. En 1977, la série télévisée américaine « Holocauste », croisant le destin de deux familles dans l'Allemagne nazie, connaît des audiences spectaculaires aux États-Unis et en Allemagne. Le film de Steven Spielberg, « La liste de Schindler », 1993, est vu par 65 millions de foyers américains à la télévision en 1997. C'est la plus forte audience réalisée par un programme non sportif aux États-Unis. B. Le génocide des Tziganes. La catastrophe invisible. Les Tziganes ont éprouvé plus de difficultés à obtenir la reconnaissance de leur génocide. À l'initiative du Conseil central des Sinti et des Roms, créé en Allemagne en 1982, le chancelier Helmut Schmidt reconnaît que les Tziganes ont été victimes d'un génocide, ce que certains historiens contestaient encore. Un mémorial aux Sinti et Roms d'Europe assassinés est inauguré à Berlin en 2012. Les ouvrages consacrés à l'histoire du génocide des Tziganes sont cependant encore peu nombreux. En France, il faut attendre 2016 pour que, par la voix du président de la République François Hollande, la France reconnaisse ses responsabilités dans l'internement des Tziganes durant la Seconde Guerre mondiale. À cette occasion, une stèle commémorative est inaugurée à Montreuil-Bellay, Maine-et-Loire, où 4000 Tziganes furent internés de 1940 à 1946. 2. De la reconnaissance à la repentance. A. Les responsabilités de l'État français. Les gouvernants français ont longtemps refusé de reconnaître la responsabilité de l'État français dans la déportation des Juifs. François Mitterrand a ainsi toujours considéré que la République n'était pas responsable des actes du régime de Vichy. Il est toutefois le premier président à assister, le 16 juillet 1992, à la commémoration de la rafle du Veldiv. En 1995, Jacques Chirac lève les ambiguïtés du discours officiel. À l'occasion de la commémoration de la rafle, il déclare que la France, ce jour-là, accomplissait l'irréparable. Mais il évoque également les Français qui ont sauvé des vies juives, les justes parmi les nations, dont la mémoire est honorée désormais le 16 juillet. B. Réparation et indemnisation. Des gestes de repentance symboliques ont été adressés aux victimes de la Shoah. Premier chancelier allemand à se rendre en Pologne en 1970, Willy Brandt s'agenouille devant le mémorial aux résistants juifs du ghetto de Varsovie. Dans un acte de repentance en 1998, l'Église catholique reconnaît ses responsabilités dans la diffusion de l'antisémitisme. Les associations juives se sont mobilisées pour que soient jugés les criminels nazis et leurs complices. C'est le but de l'association des fils et filles de déportés juifs de France, fondée par Beate et Serge Klarsfeld en 1979. Les procès pour crimes contre l'humanité en France, notamment celui du haut fonctionnaire Maurice Papon en 1997, établissent la complicité d'une partie de l'administration française dans les déportations. Bien après la RFA, les banques suisses ont dû, sous la pression des États-Unis, restituer les fonds ayant appartenu à des juifs disparus. À la suite du rapport de la commission Matteoli sur la spoliation des Juifs de France en 2000, le gouvernement français institue des indemnisations pour les orphelins des Juifs déportés. La Fondation pour la mémoire de la Shoah est alors créée, présidée par Simone Veil. 3. Transmettre la mémoire des génocides. A. Historiens et témoins. La Shoah et sa mémoire sont devenus des objets d'histoire à part entière. En 1961, l'historien américain Raoul Hilberg eut du mal à publier sa thèse sur la destruction des Juifs d'Europe, devenue depuis une référence sur le sujet. De nos jours, plus d'une centaine d'institutions se consacrent à l'étude de la Shoah, rien qu'aux États-Unis. Chercheurs et enseignants disposent à présent d'innombrables témoignages publiés ou enregistrés. Les survivants eux-mêmes ont été de plus en plus sollicités pour intervenir dans les écoles. Le cinéaste Steven Spielberg lance en 1994 la Fondation pour l'histoire visuelle des survivants de la Shoah. 50 000 interviews de survivants ont été collectées depuis dans 56 pays. B. Pourquoi se souvenir ? Le devoir de mémoire s'est imposé contre l'antisémitisme et le négationnisme. L'enseignement de la Shoah participe ainsi de l'éducation à la citoyenneté. Les appels répétés au devoir de mémoire n'ont toutefois empêché ni la résurgence de l'antisémitisme, ni de nouveaux crimes de masse en ex-Yougoslavie ou au Rwanda. La mémoire de la Shoah offre néanmoins un modèle à toutes les victimes en quête de réparation historique. En 1998, les Arméniens ont obtenu des autorités françaises la reconnaissance officielle du génocide de 1915. En 2001, la loi Taubira qualifie l'esclavage de crime contre l'humanité.